un œil ailleurs, un petit tour de la planète, totalement subjectif.
Notre petit tour de la planète totalement subjectif nous emmène aujourd'hui dans un coin quelque peu oublié des caméras ces derniers temps. On va faire un tour au Yémen, où la situation des civils est proprement catastrophique en raison de la guerre civile qui y fait rage depuis 2015. Mais il semble que la planète ait eu plus important à gérer récemment avec un virus mondial. Et puis bon, les guerres c'est bien, mais quand ça s'éternise, on sait plus quoi dire, alors on va voir ailleurs. Surtout quand on finit par ne plus rien y comprendre. Pour David Gressly, le coordinateur humanitaire des Nations Unies au Yémen, la situation pour les habitants est, je cite, « épouvantable et pourrait encore empirer ». Fin de citation. En 7 ans de conflit, sur 28 millions d'habitants, 4 millions ont été déplacés, 16 millions sont en situation d'insécurité alimentaire et 5 millions frôlent la famine. Aujourd'hui, les Yéménites vivent donc sous perfusion de l'aide humanitaire de l'ONU et des ONG. Alors pour rappel, et sans prétendre ici démêler les fils d'un conflit particulièrement complexe, disons que tout est plus ou moins parti de la rébellion houthiste de confession chiite qui estimait n'être pas assez prise en compte par le pouvoir central sunnite. Et quand on commence à parler sunnisme et chiisme, eh bien oui, on voit apparaître un bout de manteau iranien, probablement pas très loin de la rébellion, et une large manche saoudienne du côté du pouvoir central, qui aimerait bien garder le Yémen dans son giron. Pour contrer les rebelles, le pouvoir yéménite a donc appelé à la rescousse l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, lesquels ont constitué une coalition qui n'hésite pas à bombarder les civils au prétexte d'éliminer les rebelles. Il est d'ailleurs bon de rappeler ici qu'il a été prouvé qu'une partie des armes utilisées au Yémen sont françaises. Bref, résultat des courses, les groupes islamistes se font une place progressivement dans le pays et la population civile meurt dans l'indifférence totale d'un conflit où les puissances locales tirent les ficelles au chaud dans leur palais. On quitte la péninsule arabe pour remonter doucement vers la Turquie où, une fois n'est pas coutume, on s'arrête pour une bonne nouvelle. Le 8 octobre, 18 étudiants et leurs professeurs ont été acquittés alors qu'ils risquaient 3 ans de prison pour avoir participé à la marche des fiertés en mai 2019 à Ankara. La marche avait été organisée comme chaque année par le collectif Solidarité LGBTI+, association qui lutte pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes à l'Université Technique du Moyen-Orient. Sauf qu'en 2019, l'Université d'Ankara avait interdit la marche et fait évacuer le sit-in par la police à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. 18 étudiants et un de leurs profs avaient été arrêtés pour, je cite, « avoir pris part à un rassemblement illégal » et refuser de se disperser. Et au bout de 2 ans de procès, et grâce notamment à l'action d'Amnesty International, eh bien ils ont été relaxés. On poursuit notre petit tour de la planète par la Russie, où cette fois c'est une jeune artiste, Yulia Tsvetkova, qui a quelques démêlés avec la justice pour des dessins jugés pornographiques. Bon, 3 fois rien, elle risque juste 6 ans de prison pour avoir publié sur les réseaux sociaux des dessins représentant des corps de femmes nues et des vulves très imagées. Mais voilà, on est en Russie et il ne fait bon être ni féministe, ni artiste et encore moins militant pour quelque raison que ce soit d'ailleurs. Yulia Tsvetkova est dans le viseur des autorités russes depuis qu'elle a publié la série de dessins « Une femme n'est pas une poupée » où elle déconstruit les stéréotypes du corps féminin dans des croquis de femmes nues qui ont des poils ou un tampon hygiénique à la main. Mais c'est sa page intitulée « Les monologues du vagin » en référence à la bien connue pièce de théâtre d'Eve Ensler, page qu'elle anime donc sur les réseaux sociaux, qui lui a valu un procès en avril 2021. Elle y publie des œuvres d'elle-même et d'autres artistes qui représentent des vulves, ce qui lui vaut d'être accusée de faire, je cite, « la promotion de relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs », ce qui va évidemment à l'encontre de la loi sur la propagande homosexuelle ratifiée par Poutine en 2013. Alors son procès a démarré en avril à huis clos, sans journaliste ni public, ça va de soi, et il se poursuit actuellement. On devrait donc en savoir plus d'ici quelques semaines. Sachez qu'une campagne de soutien est en cours avec Amnesty International. Et on termine tout de même notre petit tour de la planète par une bonne nouvelle. Depuis le 8 octobre, le fait de disposer d'un environnement propre, sain et durable est considéré comme un droit humain par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le texte a été adopté par 43 voix pour et 4 abstentions. Et devinez qui sont les abstentionnistes ? Allez, je cafte, la Russie, l'Inde, la Chine et le Japon. L'impact sur l'homme des dommages liés au changement climatique et à la destruction de l'environnement est donc désormais reconnu par la plus haute instance internationale. Il ne reste plus qu'à faire comprendre à quelques pays ce que ça signifie. Pour rappel, 24% des décès dans le monde sont dus à l'environnement et on meurt encore assassiné de militantisme écologique sur la planète. Chers auditeurs, je vous laisse donc courir rejoindre les rangs de Greenpeace et je vous retrouve ici même dans 15 jours.